Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, le tout accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les mythiques coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Didier Rubio nous donnera les conseils santé, Maxime Brossard aujourd'hui encore une fois l'agenda de la semaine et le débat avec le niveau de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Copa América de football. Enfin, nous recevrons Loris Bourelli, champion du monde et d'Europe, rien que ça, de natation. Avec nous ce soir, Coraline Camebrac. Bonsoir Coraline.
Bonjour.
Elle a une petite voix, on en parlera tout à l'heure. Timothée Roubière, bonsoir Timothée.
Salut.
Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Messieurs, dames, bonsoir.
Bonsoir.
J'en profite bonsoir. Juste avant de commencer l'émission, de saluer notre invité qui est déjà là, Loris Bourelli. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur Radio Présence dans l'émission Sportez-vous bien. Comme vous l'avez entendu, Coraline, qui est à votre droite, elle a une petite voix. Hein.
C'est la clope. Dans une émission de sport, ça fait tâche.
Bah, je suis venu en tongue.
Ouais, et en short, hein, on peut l'annoncer.
Mais
hein.
Ça, j'ai une explication. C'est parce que vous êtes un grand fan de Camping Paradis. Et donc,
ah!
Parce qu'il y a déguisé en Laurent Ornac en fait.
Il y a un Camping Paradis inédit ce soir. Loris, bien évidemment, vous regardez Camping Paradis, j'imagine.
Non,
pas du tout.
C'est pas obligé de dire France-Roumanie Espoir ce soir. Hein. C'est le match de l'année.
Désolé, j'aime l'art.
Qu'est-ce qui vous arrive, Coraline? Malade?
Malade, un petit peu malade. La dernière fois, c'était parce que j'avais trop crié à la section paloise. Mais là,
la saison est finie, donc
la saison est terminée.
Vous voulez que je vous rassure, ça s'entend pas que vous êtes malade.
Non, du tout.
C'est parfait. Timothée Rouvière, il va y avoir peut-être des larmes tout à l'heure, non? C'est la dernière de l'année, parce que nous, on s'arrête la semaine prochaine, fin de saison, la semaine prochaine. Mais vous, c'est ce soir, parce que vous n'êtes pas disponible malheureusement lundi prochain. Donc c'est la dernière ce soir.
Ben, je vous écouterai attentivement pour la dernière émission du fin fond de la Nièvre. Oui, c'est la dernière émission. Écoutez, on boucle la boucle, mais j'espère revenir la saison prochaine.
Oui.
Bah,
la prolongation de contrat, là, président.
On discutera tout à l'heure de la prolongation de
un
contrat.
CDI,
vous êtes un peu cher, donc on verra.
Oui, c'est ça.
Et vous, Maxime, je vous ai senti fatigué. C'est vrai que vous êtes tous fatigués. Ouais. Un peu, c'est
ouais,
on sent que c'est la fin de saison.
C'est la fin de la saison, là, on tire sur les organismes.
Les blessures sont voilà, plus
récurrentes. La préparation a quand même été plutôt mauvaise.
Oui, c'est ça. Il n'y en a pas eu.
C'est ça, tout simplement.
Si, pas barbecue, apéro, donc forcément, ça tire après.
Loris, j'imagine que pareil pour vous, de temps en temps, la fin de saison, ça fait du bien. Hein. C'est une obligation même.
Ça fait du bien de souffler de temps en temps. Ouais. Là, c'est la première fois depuis 12 ans maintenant que je suis au Dauphin du Touareg que j'ai un été complet, entre guillemets. Donc,
en sachant qu'il y a malheureusement pour vous, vous n'êtes pas au Mondiaux
voilà,
de Corée du Sud, qui vont débuter dans 15-20 jours à peu près. On en parlera bien évidemment en seconde partie d'émission. Merci. On va démarrer tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien? Les coups de cœur et les coups de gueule.
Comme chaque lundi, vous nous parlez d'un événement sportif qui vous a marqué, un exploit, une déception. Allez, on va commencer quand même par un coup de gueule. Voilà, pour vous, Timothée Rouvière. Il y a eu le Grand Prix de France hier, sans surprise, remporté par Hamilton. Je pense que dès le premier virage, on savait qu'il allait le remporter. Voilà, mais vous, le coup de gueule, c'est sur les deux Français. Sans parler de Leclerc, bien évidemment, qui est officiellement monégasque.
C'est ça. Alors, c'est un coup de gueule, c'est une déception. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de ce Grand Prix de France qui avait lieu au Castellet depuis 2 ans.
Disputé
au Castellet, merci. Et c'est vrai que dès les essais qualificatifs, on a senti Romain Grosjean très très loin avec sa As. Il n'a pas réussi à performer. Son coéquipier Kevin Magnussen, c'est quasiment la même chose. Romain Grosjean qui depuis plusieurs saisons a du mal à confirmer les espoirs, ça fait 4 ou 5 saisons qu'il est en F1. Et pour Pierre Gasly, il a du mal à se mettre dedans, il est très très loin de son coéquipier Verstappen qui finit 4ème, Gasly finit 11ème. Et donc voilà, sur les Français assez déçus, bon Charles Leclerc remonte un petit peu le niveau, bon il n'est pas français. Pour nous il est français.
Il est
là,
sur le podium donc il est français.
Il est sur le podium, voilà, il finit 3ème.
Ah, Hamilton est français, ça y est, coco.
Non, il est monégasque, donc pour nous il est français quand il est sur le podium. Mais voilà, sur le niveau de ce championnat de ce GP de France, un peu déçu parce que tout était rapidement joué. il n'y a pas forcément eu de suspense. Et moi, ce que j'ai été assez déçu parce qu'en fait, Charles Leclerc le disait à la fin en interview, les pilotes ont dû économiser leur gomme, en fait, ont dû économiser leurs pneus. Et c'est dommage parce que quand on doit économiser ses pneus parce que le sol est à 58 degrés, voilà, il y a encore moins de suspense. Donc assez déçu de ce Grand Prix de France.
Sans trahir ce qui se dit hors antenne, on en a discuté un petit peu avec vous, Loris, ouais, tout à l'heure. C'est vrai que le Grand Prix était un petit peu ennuyant.
Voilà, il était carrément ennuyant. Et le seul moment où on a eu un petit doute, c'est quand on a vu qu'Hamilton et Vettel avaient usé l'intérieur de leurs pneus. On s'est dit peut-être qu'il y aura un rebondissement, mais pas du tout. Et ça s'est passé, tout s'est passé comme prévu pour Mercedes, quoi.
C'est la 8e course du championnat du monde. Ouais. Le championnat, il est déjà clos alors qu'on va jusqu'au mois de novembre. On est quand même en train de partir sur des bases, finalement, du championnat du monde le plus ennuyant de c'est au moins de ces 20 dernières années. Ouais. Même à l'époque Schumacher, il y avait un minimum de suspense, même si on savait que Schumacher était largement au-dessus. C'est vrai que là, c'est ennuyant.
Là, le problème, c'est qu'en fait, on a les Mercedes qui dominent à la fois les essais libres, à la fois les qualifications et à la fois la course. Et elles sont toujours aux deux premières places. Et les Ferrari n'arrivent pas à exister, les Red Bull non plus. Et quels que soient les changements effectués sur les voitures au cours des week-ends, on a l'impression que Mercedes est 2-3 secondes devant. Donc Ferrari au début, sur les lignes droites, ils arrivaient à performer. Mais là, c'est compliqué, il y a des erreurs techniques et Mercedes qui surdomine devant.
La Ferrari, ils ont fait beaucoup d'erreurs quand même dans ce début de saison. Franchement, je pense qu'ils ont perdu la saison justement sur ce début de saison. Enfin, j'ai pas compris. Et encore plus Red Bull, avec le nouveau moteur Honda maintenant à l'heure actuelle, c'est... Enfin, ils font comme ils peuvent, mais ils ont trop de retard.
C'est vrai qu'on pouvait attendre Ferrari, qui a recruté, on en a parlé, Leclerc. Le Monégasque. Il y a Red Bull, c'est vrai que ce sont des voitures, des écuries qui ont l'habitude, bien évidemment, d'être au premier plan. Et c'est vrai qu'on les voit pas cette année, quoi.
Ben non, on les voit pas. On les voit, mais c'est le reste.
On les voit pas comme il fallait, quoi.
Voilà, c'est le reste du monde, comme on dit. Il y a souvent Mercedes, ensuite une ou deux Ferrari qui arrivent à se glisser, Max Verstappen qui est quand même un pro du pilotage avec sa Red Bull, et derrière les McLaren, Renault, c'est très très compliqué avec Ricardo et Hülkenberg. Et non, compliqué, Mercedes qui arrête pas de dominer, on sait pas quand ça va s'arrêter, en tout cas ça va continuer comme ça cette saison.
Et là je parle bien évidemment aux sportifs de haut niveau, si on se met à la place d'Hamilton, c'est pas vraiment compliqué de se concentrer alors qu'on sait qu'on surdomine, parce qu'il le sait, il le voit qu'on surdomine le championnat, qu'il est quasiment champion du monde alors qu'on est qu'au mois de juin. Là, en tant que sportif de haut niveau, c'est là où il faut être professionnel, justement. C'est là où il faut pas.
C'est là que va se faire la différence, en fait. Hamilton, il est déjà 5 titres de champion du monde, je crois.
5. Oui,
et franchement, il a l'habitude. Et en plus, là où on voit vraiment qu'il sait gérer ce genre de choses, c'est qu'il fait tellement de choses à côté de la Formule 1. Et qu'il arrive à chaque week-end à être la Fashion Week de Paris, 3 jours avant le Grand Prix. Il arrive au Grand Prix, il gagne. Enfin, il est extraordinaire, ce mec.
J'ai vu faire un match de foot contre Thierry Henry, c'était pas mal d'ailleurs. Il joue bien, hein, franchement, Hamilton au foot.
Reconversion, peut-être.
T'es étonné. Il y avait Sol Campbell aussi après.
Ah oui, l'ancien joueur d'Arsenal.
Il a moins dribblé du coup après.
Oui, bah,
l'autre, il était fou. Hein.
S'il voulait faire le Grand Prix derrière, il avait intérêt de lâcher son ballon devant.
Il était fou.
Devant Campbell. Gardez la parole, Maxime Brossard. Vous, c'est encore, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est quasiment que des coups de cœur.
Mais oui,
dans
un peu de soleil dans cette émission.
Un peu de sourire. On va partir à côté, on va partir à Auch, qui a été champion de France de rugby en Fédéral 3.
Je voulais mettre un petit coup de projecteur sur le rugby amateur en cette fin de saison avec le titre d'un club mythique du rugby français qui est le RC Auch maintenant, qui a changé de nom, qui avant était le FC Auch et qui est descendu en championnat honneur administrativement. Du coup, ils sont en train de remonter les échelons du rugby national, et là ils ont été donc sacrés champions de France de Fédéral 3. Ils ont battu Courbevoie en finale 14-21, voilà, donc c'est une belle victoire pour les Occitains. Ça fait plaisir de revoir ce grand nom du rugby, mais dans les divisions un peu plus hautes. Et puis il y a aussi, je voulais souligner rapidement, le titre de Montrégeau Gourdan-Polignan, qui est un tout petit club qui joue en promotion honneur, qui est dans le Comminges, donc voilà, au sud du département, voilà, et qui ont été champions aussi, champions de France. Voilà, ils ont gagné 13-16 contre Abbas, un club landais en finale. Donc, voilà, ça se salue aussi, bravo à eux.
Coraline ?
Ouais, non, moi je disais, en fait, ça fait plaisir en fait de voir des clubs, on va dire, historiques, retrouver un petit peu de leur niveau. Moi je pense à Tarbes, on aimerait bien un petit peu qu'ils retrouvent de leur niveau, ça fait plaisir quand même.
On parle de là, c'est vraiment des clubs historiques. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes financiers et sportifs, bien évidemment. Mais le par rapport quand ils étaient au très haut niveau, c'est vrai que là maintenant il y a l'enjeu financier qui entre en jeu plus qu'avant.
Ouais, mais c'est-à-dire que le paysage du rugby français a véritablement basculé en quelques années. L'évolution a été peut-être un peu trop rapide pour ces clubs-là. Il faut savoir aussi que le tissu économique de ces petites villes, par exemple, enfin de ces petites villes, de ces villes comme Tarbes, Auch, est quand même assez restreint.
Par rapport à Toulouse, c'est quand même.
Voilà, je peux vous citer d'autres exemples, Narbonne. Voilà. Après, même l'exemple le plus criant, c'est Lourdes finalement, qui a été 8 fois champion de France. Ouais, un palmarès incroyable, quoi. C'est-à-dire que.
Et là, ils existent vraiment.
Ah, maintenant, ils sont en fédéral 2, quoi. Ouais. Donc c'est. Ouais, c'est un peu un des défauts de la professionnalisation du rugby qui, je pense, s'est fait un peu trop rapidement, qui a aussi ses avantages, puisque ça, quand même, le professionnalisme n'est pas le démon. Mais bon, on va dire que voilà, il y a eu aussi la revers de la médaille pour certains clubs. En tout cas, ça fait plaisir pour que Auch revienne aussi haut.
Timothée Rouvière.
Oui, mais ça fait plaisir de voir ces clubs revenir au plus haut niveau. Et surtout, c'est des clubs qui ont des valeurs, qu'on retrouve vraiment au niveau inférieur, les valeurs du rugby, la combativité, la vitesse d'exécution. Donc, c'est vrai que c'est moins spectaculaire que sur des matchs de top 14, mais il n'y a pas de calcul, ils jouent avec le cœur. Et voilà, ça fait plaisir. Le public est toujours fidèle, quels que soient les résultats. Et pour des clubs comme ça, c'est formidable. Et surtout, le fait de les voir remonter en Fédéral 2, c'est une belle promotion pour eux.
Et en parlant de Fédéral 2, une info transfert.
Oui, importante.
Un ami, Nicolas Asler, qui est à l'honneur espoir au Blagnac Rugby, a signé en Fédéral 2, justement, au club historique du FC TT Rugby.
Ça y va, les copains. Là. Vous faites un peu comme Moscato avec la porte. Là, voilà. Vous glissez les informations.
En fait, je suis son agent, c'est moi qui l'ai placé.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Bon travail, c'est un bon club, le FC TT.
Oui, oui. Bah, il va s'épanouir là-bas, j'en doute pas. On reste dans le rugby avec vous, Coraline. Oui. Coup de cœur, coup de j'adore, coup d'amour, presque, j'ai envie de dire, pour bien évidemment, on va en parler, les moins de 20 ans, champion du monde pour la deuxième fois de suite. Seule l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, qui la Nouvelle-Zélande l'a gagné 5 fois de suite, avait réussi cet exploit, c'est dingue.
C'est ça, on parle quand même de deux gros pays, quand même, rugbystiquement, pardon. C'est quand même deux bons gros pays. Mmh. Donc, ouais, effectivement, la France et les Bleus qui ont remporté 24 à 23 contre l'Australie. En plus, avec un début de match assez compliqué.
Un essai au bout d'une minute, je crois.
49 secondes, je crois que c'était. Ouais, enfin, c'était le début de match, on n'y croyait pas trop. Mmh. Et même la fin du match, c'était un peu compliqué. Ah,
tendu,
passait devant, ils nous repassaient devant, c'était un peu compliqué. Donc, ça fait plaisir d'avoir. Les Bleus qui gagnent la Coupe du Monde, alors qu'en plus, dans quelques mois, il va y avoir la Coupe du Monde des seniors, si je puis dire.
Oui, des grands. Je me tourne vers Maxime Brossard, qui suit bien évidemment aussi le rugby. Il y a eu la génération 2018, championne du monde des moins de 20 ans l'année dernière.
C'est le doublé.
Ouais. Bien évidemment, et vous savez la question que je vais vous poser, on va tout de suite penser à la Coupe du Monde 2023. Oui. Qui aura lieu en France. Oui. C'est cette génération-là qui va nous représenter.
C'est clairement cette génération-là qui sera
donc
sur le
terrain. Donc c'est de bon augure de les voir double champion du monde.
Après, comme on dit, voilà, là, ils ont été champions du monde, mais il faut qu'ils aient du temps de jeu en top 14 maintenant. C'est ça le problème, quoi. Si ici, ils jouent pas, s'ils performent pas au niveau, ils pourront pas, ils pourront pas se faire les dents. Et parce que bon, on a beau dire quand on joue entre juniors, c'est quelque chose, mais quand vous avez 20
grands,
ans
c'est...
et que vous jouez contre un papa de 35 ans, c'est pas la même chose.
C'est ça qui vous fait progresser, quoi.
C'est pas vrai. Bon, voilà.
Timothée Rouvière, là c'est le travail de la fédération avec les clubs pour la Coupe du Monde, ça va être la vitrine. Hein.
Oui, ça va être la vitrine. Alors moi je pense surtout à des clubs comme Toulon et Toulouse Toulon un petit peu moins que Toulouse, mais qui mettent vraiment en avant ces jeunes. On a un demi d'ouverture qui s'appelle Louis Carbonel, qui est formidable, qui est double champion du monde et qui pourrait peut-être être le demi d'ouverture de l'équipe de France en 2023. Mmh. Voilà, maintenant c'est aux clubs comme Toulouse qui le fait avec ces jeunes. On voit Lucas Tauzin, on a vu Romain
et qui le fait bien. Il faut le rappeler.
Bien
on est à Toulouse, on est champion de France.
Qu'il fait bien, c'est au club de donner la chance aux jeunes. Et surtout moi devant le match, je me suis régalé, parce que c'est vrai que les Français avaient très mal débuté la compétition. C'est vraiment un concours de circonstances pour lequel ils passent, parce que je rappelle ils prennent une fessée contre l'Argentine. Et c'est vrai que le match a été très serré. Moi j'étais au Carme, j'ai crié champion du monde, personne n'a compris.
C'est vrai que
moi j'étais dans le métro et j'ai fait le geste comme ça, ouais yes,
mais personne,
ça, les
ne
gens me regardaient,
en fait.
Ils comprenaient pas pourquoi je faisais ça.
Et moi j'ai eu quelqu'un dans la rue qui m'a fait de foot, non le féminin, le foot soit c'est passé soit c'est pas encore. Donc c'est vrai que ouais, c'est beau. Moi je me suis régalé devant le match, devant cette génération qui a du cœur, qui a de l'envie, et j'espère qu'ils performeront. Je me suis même posé la question s'il fallait pas les envoyer au Japon, mais
non,
ils sont encore un petit peu trop jeunes en réalité d'en faire de la chair à canon.
Voilà.
Pourquoi pas au Japon, non ?
Non, 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 ils sont trop jeunes. Il faut quand même qu'ils prennent encore de la maturité, on va dire physiquement, athlétiquement. Il faut se développer parce que.
Laissez long, quand... laissez-les profiter ouais, un petit peu de leur titre un peu.
Voilà.
Ouais, et là, leur jeunesse, vacances, et leur jeunesse surtout parce
qu'ils vont reprendre. Bien évidemment, déjà des grands champions. Certains sont tout simplement double champions du monde des moins de 20 ans. Rien que ça. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Une romance sans parole. Un air que l'on saisit au vol et qu'à notre tour on fredonne. Il est la bienvenue qu'on souhaite à l'inconnu. Une place qu'on fait à l'étranger que l'on vient de croiser. Pas de phrase, pas d'orthographe. C'est une belle fleur que l'on agrafe. Discrète mais élégante déclaration d'une nouvelle ambition. Laisse-moi voir dans nos sourires des portes ouvertes sur l'avenir. Un espoir à accueillir, sourire franc ou timide, enjôleur et même triste. Je vois de l'espoir dans ses sourires. Laisse-moi voir dans nos sourires des portes ouvertes sur l'avenir. Comme un ciel peut s'éclaircir, sourire franc ou timide, enjôleur et même triste. Je vois de l'espoir dans ses sourires, du sourire. Change la donne, celui qui dégage l'horizon en apaisant les tensions. Il est ce petit rien qui peut faire tant de bien. Pour peu qu'on sache le voir, pour peu qu'on veuille y croire. Pas de phrase, non, pas d'orthographe. C'est une belle fleur que l'on agrafe. Et discrète mais douce invitation à un soupçon d'affection. Et laisse-moi voir. Des portes ouvertes sur l'avenir. Oh oui, un espoir à accueillir. Sourire franc ou timide, enjôleur et même triste. Je vois de l'espoir dans ses sourires. Laisse-moi voir dans vos sourires. Des portes ouvertes sur l'avenir. Comme un ciel peut s'éclaircir. Sourire franc ou timide, enjôleur et même triste. Je vois de l'espoir dans ses sourires. Un peu de force pour celui qui n'en a plus. Juste un peu de douceur pour celle qui n'en a pas reçu. Il n'efface pas les larmes, mais offre du réconfort. Au cœur d'une détresse, il est le premier des renforts. Laisse-moi voir dans nos sourires des portes ouvertes sur l'avenir. Un espoir à accueillir, sourire franc ou timide, enjôleur et même triste. Je vois de l'espoir dans ses sourires. Dans nos sourires, des portes ouvertes sur l'avenir. Comme un ciel peut s'éclaircir, sourire franc ou timide, enjôleur et même triste. Je vois de l'espoir dans ses sourires.
Sins Emilia sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé cette semaine est comme d'habitude avec vous Didier Rubio. On va parler des produits de la ruche, c'est quand même assez vaste, mais bien évidemment quand on pense aux produits de la ruche, on pense tout de suite au miel.
Bonsoir Jean, ouais tout à fait, les produits de la ruche c'est quelque chose qui est très très respectable. Hein. Bon, en premier le miel, alors on lui attribue des tas de vertus qu'il a en partie, après il ne faut pas oublier quand même que le miel c'est un
du
produit,
sucre.
Ouais voilà, c'est quand même du sucre. Et donc à un moment donné,
il
faut calmer le jeu et le prendre à petite dose effectivement. Essayer de trouver quand même du miel de bonne qualité, bon, chez des apiculteurs qu'on connaît ou autres, mais dont la fabrication va... pas être très très loin ou en tout cas pas venir
industriel.
Ouais, si oui voilà, avec des miels qui sont ultra chauffés, pas industriels. Donc ça c'est bien. Et c'est vrai que le miel contient notamment un acide qui s'appelle un acide formique et c'est pour ça que ça fait du bien
à la gorge,
ouais. Moi je conseille parfois
souvent dans la tisane, les trucs dans
exactement,
le thé,
exactement. Un truc tout simple là, c'est de prendre un peu d'huile d'olive dans une cuillère à café et de mettre du miel par-dessus, ça fait comme un bonbon et ça passe très très bien et ça coule dans la gorge. Ça fait super de bien.
Et comme ça, on n'a plus mal à la gorge. Mais ça, c'est bon à savoir.
Ça, pour la chronique.
Voilà, c'est bon à savoir.
Pour la radio, c'est parfait.
Comme ça,
quoi.
Le jour où on arrive un lundi soir et qu'on a mal à la gorge, qu'il y a de l'huile d'olive et du miel,
l'huile
et on parle
là-dessus. Du miel, et c'est pas cher, et c'est très bien.
Et c'est parti.
Non, non, le miel, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a la gelée royale, donc.
Ça, c'est différent, ça.
Oui, ouais, ça, c'est très différent. Hein. C'est des choses qui sont prises après en complément, encore une fois, alimentaire. Mmh. La gelée royale, elle stimule vraiment l'immunité, donc ça a toujours été montré pour ça. Donc il faut faire des petites cures de 3-4 fois dans l'année, ça suffit. Et ce qui est recommandé, c'est à peu près 2 à 4 grammes de gelée royale.
Par
ça,
jour
c'est... Oui, c'est ça. Mmh. C'est l'idée de la reine, quoi, de la reine de la ruche, qui est quand même là pour fabriquer quelque chose qui a de la puissance. Quoi, voilà. Après, il y a donc, dans les produits de la ruche, il y a ce qui s'appelle la propolis. Donc propolis,
alors
c'est...
Alors ça, on va être honnête avec nos auditeurs,
ouais.
C'est que quand on a préparé la chronique...
Oui, c'est vrai.
Je vous ai dit, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais l'apprendre en direct avec vous, cher auditeur.
Voilà, donc en fait, la propolis, c'est une espèce de... ça colmate la ruche, en fait. Les abeilles fabriquent ça pour avoir une ruche qui est solide. Et donc, ce sous-produit, presque, comme on pourrait penser, est recueilli. Et en fait, pareil, hein, il se prend sous forme, après il est retrituré, on va dire, il peut se prendre sous forme de gélule. Et en fait, c'est un très très bon antiviral et un très très bon, pour stimuler l'immunité, encore une fois. Donc moi, je conseille à peu près de le prendre dans les périodes hivernales, bien sûr. Autour de 3 grammes par jour, on peut aller à peu près 400 mg par kilo. Donc c'est toujours pareil quand on cherche de la propolis. Après, il faut se renseigner auprès des gens qui le vendent.
Il faut toujours, comme d'habitude, la bonne qualité. Oui, sinon, ça marche
moins. Il faut de la qualité, de toute façon, dans chaque chronique qu'on a fait et chaque fois qu'on a présenté des produits de complémentation. Il vaut mieux, un, se faire conseiller. Deux, il faut voir s'il n'y a pas toujours des incompatibilités, par exemple, avec des traitements médicamenteux qu'on prendrait. Donc ça, je mets toujours en garde là-dessus, de demander aux pharmaciens ou autres, est-ce que ça va parce que je prends des anticoagulants, par exemple, et que je ne peux pas prendre ça, ça ou ça. Yeah. Voilà, donc il faut toujours regarder s'il n'y a pas une allergie, bien sûr, aux produits de la ruche, parce que s'il y a une allergie, évidemment, ce n'est pas tellement conseillé. Et de demander aussi, lorsque je prends ce produit, est-ce qu'il y a réellement un principe actif? Parce que,
il faut une utilité derrière.
Ben ouais, s'il y a 2 mg alors qu'il en faut 400...
c'est compliqué.
Ça ne sert pas trop à grand-chose. Et du coup, donc dans l'armada qu'on peut avoir en naturel pour se stimuler un petit peu, augmenter les défenses immunitaires dans des périodes qui sont parfois un peu difficiles, l'hiver, les transitions de saison ou autre, moi je crois que ça vaut le coup de faire des petites cures comme ça. Ça ne peut pas faire de mal de toute façon. Hein, et clairement, ça peut soutenir effectivement en effet l'immunité.
Et bien évidemment, pour terminer, quand on parle de miel, on pense tout de suite aux abeilles et on va faire un petit message comme quoi il faut faire attention puisque c'est quand même une espèce extrêmement importante dans la vie de tous les jours.
Ouais, je sais pas, est-ce utile de le rappeler que sans les abeilles,
il faut le rappeler, c'est
fini, on est mort.
Exactement. Didier Rubio, merci beaucoup.
Jean.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Et malgré la fin de saison, il y a quand même une actu assez chargée. Oui. Et comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, justement. On va parler rugby.
On commence par le rugby. Bon, je l'ai dit dans les coups de cœur. Je resalue encore une fois la victoire de Hoche et de Montrégeau-Gourdan-Polignan, donc en championnat de France. Fédéral 3 et Promotion Honneur, voilà. Après, on va annoncer rapidement les demi-finales de Super Rugby, même si pour la première, ça va être compliqué pour la regarder. Ça va être entre les Jaguares argentins et les Brumbies de Canberra, donc en Australie. Ce sera samedi 29 à 1h du matin, voilà. Donc, si vous aimez vraiment le rugby, vous allez vous lever, sinon vous dormirez, je pense. c'est historique quand même, il faut le signaler. Les Jaguares, c'est la première fois qu'ils arrivent à ce niveau du Super Rugby. Donc bravo à eux avec Gonzalo Quesada, un coach qu'on connaît bien en France, voilà. Et dans l'autre demi-finale, là, si vous voulez voir un grand match de rugby, il faudra être devant votre télé. Ce sera toujours samedi 29, ce sera à 8h35, ce sera entre les tenants du titre, les Crusaders et les Hurricanes. Là, il y aura tous les All Blacks sur le terrain, ils vont tous s'affronter. Voilà, ça va être magnifique.
Un entraînement avant la Coupe du Monde au Japon 2019.
J'aimerais pas faire des entraînements comme ça, ça va piquer, je pense.
bah, avec un peu de chance, c'est ce genre de match qui va faire que la France va gagner la Coupe du
Espérons,
Monde.
Espérons, ils vont tous se blesser. Oh, mais je pense que même s'ils mettent l'équipe C, ils vont quand même gagner. Vous embêtez. Même s'ils mettent des moutons, ils vont gagner.
On parle un mot de football, justement. On parle de Coupe du Monde en 2019. Mais là, il y a la Coupe du Monde 2019 de football à l'heure actuelle.
Et oui, il y a les filles qui ont gagné hier, je vais dire, allez, péniblement, poussivement, contre le Brésil en prolongation 2-1. C'était au Havre, voilà, il y a eu une belle ambiance d'ailleurs. C'était en huitième de finale et donc elles sont qualifiées pour les quarts de finale.
C'était tendu hein, quand même ce
Ouais,
ce
c'était tendu. Ouais.
Il y avait quand même une sale mentalité sur le terrain, ce qui est assez rare. On vend la bonne mentalité du football féminin. C'est vrai qu'hier on sentait que c'était le huitième de finale.
Mais d'ailleurs, il y a eu encore appel à la VAR plein de fois, comme dans beaucoup de matchs d'ailleurs. C'est assez hallucinant.
Il y a déjà, par rapport à la Coupe du Monde des garçons l'année dernière, les arbitres ont utilisé beaucoup plus de fois la VAR depuis. Les phases de poule 8e de finale que sur toute la Coupe du Monde des garçons.
C'est fou.
Donc voilà, après, si le jeu veut utiliser la VAR, il le faut.
Bien sûr.
Et la France qui est en quart de finale, qui peut affronter le vainqueur de l'Espagne et États-Unis, c'est en direct, 66 minutes de jeu. Il y a quand même un petit exploit, c'est qu'il y a un partout. L'Espagne tient tête aux États-Unis. On rappelle, les Américaines sont championnes du monde en titre et sont ultra favorites de la compétition. Ouais.
Et du coup, le quart de finale, ce sera vendredi 28 à 21h. Voilà, TMC ou Canal+, vous choisirez, au Parc des Princes. À noter aussi, il y a eu la qualification de la Norvège qui va affronter l'Angleterre en quart. Là, ce sera jeudi à 21h, toujours sur les mêmes chaînes. Et il y a aussi l'Allemagne qui est passée. Et en attendant, il y aura un beau match aussi ce soir. Il y a Suède-Canada à 21h sur Canal+.
Et le plus gros match des huitièmes de finale, il est demain à 21h. C'est le Pays-Bas-Japon, Pays-Bas championne d'Europe en titre, qui ont gagné l'Euro contre le Japon, champion du monde en 2011 et finaliste en 2015. Donc le gros match de titan, il est demain soir à 21h, Pays-Bas, Japon.
Voilà, on continue le foot donc avec les espoirs qui ce soir ont rendez-vous avec l'histoire puisqu'ils affrontent la Roumanie à 21h, ce sera sur W9. C'est un match capital pour la qualification. Il suffit d'un point au bleu pour se qualifier pour la demi-finale, mais surtout pour décrocher le ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et il faut rappeler que l'équipe de France n'a pas participé aux JO depuis 1996.
Alors, je ne vais pas donner un coup de vieux, mais c'est simple. Coraline, moi et Timothée, on n'a jamais vu l'équipe de France aux Jeux Olympiques.
Jamais vu la France. Et vous n'avez pas non plus connu l'URSS, genre. C'est quand même important, il faut le souligner. Ouais. je continue avec le foot. Il y a la Cannes.
Donc,
on va en parler tout à l'heure, mais bon, rapidement. Actuellement, je crois qu'il y a Côte d'Ivoire, Afrique du Sud.
Victoire de la Côte d'Ivoire.
Ah, voilà, c'était à 18h.
Bon. Victoire de la Côte d'Ivoire.
Victoire de la Côte d'Ivoire, voilà. Et puis,
actuellement, Tunisie-Angola 0-0 après 26 minutes de jeu. On est dans le direct.
Oui, c'est ça. Et donc, et à 22h, ça va enchaîner avec Mali-Mauritanie sur Bein Sport. Hein, voilà, si vous voulez faire une journée Cannes, c'est parti, quoi.
Un mot de la Copa América ?
Non, parce qu'on va en avoir un mot.
On va en parler juste après.
Change de sport là.
Alors il y a la Coupe du Monde de rugby au mois de septembre. Il y a la Coupe du Monde féminine de foot.
Ouais.
Là il y a la Coupe du Monde de basket masculine. Pareil au mois de septembre. Mais là il y a l'Euro féminin de basket qui va démarrer bientôt là.
L'Euro qui démarre jeudi donc avec la France qui sera dans le groupe de la République Tchèque, de la Suède et du Monténégro. La France
ça devrait le faire.
Ouais, ça devrait aller. Elles vont affronter la République Tchèque, donc ce sera ce jeudi à 14h20 sur Canal+ Sport. Mais avant, il y a un match capital en Pro A, donc championnat de France. C'est le match décisif, le match 5 entre Monaco et Villeurbanne. Il y a donc 2-2 actuellement entre les deux équipes au nombre de matchs gagnés. Et donc ce sera à 20h45 ce mardi sur RMC Sport 2. Voilà, si vous voulez voir la finale de basket.
Et du FC.
Ouais, je continue un petit peu avec du MMA. Rapidement, comme l'actu est un peu légère, voilà, on va mettre un peu de tonnage dans cette actu avec un duel de poids lourd entre le franco-camerounais Francis Ngannou et Dos Santos, voilà, qui seront dans la cage dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sera à 3h du matin.
Timothée Rouvière.
Et juste par rapport au MMA, aujourd'hui, une décision du Conseil d'État, le MMA va être autorisé à partir de 2020 comme sport en France. Pardon.
On recevra. Voilà,
on prendra Anthony Rea.
Anthony Rea qu'on avait déjà reçu, qui fait du MMA, du pancras, qui fait quasiment
grand combattant.
Sports, et qui, voilà. J'avais réussi à le battre au bras de fer, c'est ça
Que c'est faux là. C'est ça
non, c'était pas ça.
Au ping-pong, il bat personne.
Au Mikado, ouais.
Bon, on dira rien, on dira rien. Un mot de MotoGP et Moto de Formule 1 pour terminer.
Rapidement, il y aura donc course aux Pays-Bas ce week-end. Donc, ce sera ce dimanche à 13h55 sur Canal+. On va suivre les exploits de notre Français Fabio Quartararo qui a fait deuxième en Catalogne.
Voilà. Et il n'est pas monégasque lui.
Et qui n'est pas monégasque, oui. En plus. Mais je crois qu'en plus il a grandi en Espagne. Enfin, donc du coup, c'est quand même un peu particulier. Ouais. on se raccroche à ce qu'on peut dans les sports mécaniques en français. Donc, et j'enchaîne et je termine même avec la Formule 1 et le Grand Prix d'Autriche. Donc voilà, qui va faire chuter Hamilton, c'est la question, et les Mercedes. Hamilton, 20h, vainqueur au Castellet hier. Donc je vous propose de mettre le réveil au départ, vous faites la sieste et vous vous réveillez à la fin et vous regardez qu'Hamilton a gagné encore une fois. Ce sera à 15h05 sur Canal+, ce dimanche. Voilà.
Merci Maxime, et on passe nous tout de suite au débat de la semaine.
Sportez-vous bien. Le débat.
On va parler football dans ce débat. Champion du monde en 2006, 2010, 2014 et 2018, le football européen domine le monde au point où le gouffre devient important entre les pays de continents différents. Commencé le 14 juin dernier, la Copa América 2019 n'offre pour l'instant malheureusement pas un grand spectacle, comme la CAN qui a débuté vendredi dernier et qui se poursuit en ce moment même. Messieurs, on va vraiment parler du... Messieurs, dames, pardon, on va vraiment parler du niveau global. Est-ce que le niveau est aussi faible qu'on le vend, Timothée Rouvière?
Non.
Maxime Brossard?
Non.
Loris Bourelli?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Et Corinne Camebrac?
Allez, non.
Non.
Tout le monde est d'accord.
Honneur à l'invité. Le niveau est correct. C'est vrai qu'il y a des grands joueurs, il y a des grandes nations. Pour l'Afrique, il y a l'Algérie, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. Pour l'Amérique du Sud, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, le Chili. Mais on voit qu'il y a un peu de mal quand même, non?
Non, je trouve que, oui, certainement, le football européen domine. Mais,
surdomine.
Surdomine. Mais, pour regarder beaucoup tout ce qui est Copa et les pays d'Amérique du Sud, parce que je viens de Martinique, donc j'ai grandi avec ces pays-là. Mmh. Et non, pour les regarder souvent, je trouve pas qu'il y ait de niveau. Mais en fait, c'est surtout des équipes, je trouve, qui sont, par exemple, sur un exemple de l'Argentine, à chaque fois, il y a des évolutions, des changements et... Avec un joueur comme Messi, Agüero, Di Maria, etc., je n'arrive pas à comprendre comment...
Qui ne gagnent pas, quoi.
Voilà, comme le Brésil, avec l'équipe qu'ils ont, c'est le 11 ultime presque, et ils gagnent pas. Ils n'arrivent pas à gagner, donc j'arrive pas à comprendre.
C'est là où on voit que c'est quand même un sport collectif. Ok, il y a des énormes individualités. Bon, Neymar qui ne joue pas à l'heure actuelle avec le Brésil, Messi, mais par exemple, c'est le Chili qui a gagné les deux.
Voilà.
Qui nous avait dit que le Chili allait en gagner deux, Timothée Rouvière?
Ouais, c'est vrai que c'est étonnant, mais alors plus pendant la Copa América que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai qu'on a beaucoup de pays qui sont très très forts sur le papier. Je pense au Brésil, je pense à l'Argentine avec l'attaque de feu qu'ils ont. Et on voit des pays comme... comme le Paraguay, comme le Qatar, très étonnant.
Invité,
invité l'année prochaine. Comme l'Équateur, comme le Venezuela ou comme le Chili qui a gagné des dernières éditions, qui domine et qui joue les troubles faits. Et comme Loris, je suis d'accord. On comprend pas forcément parce que quand on voit une équipe d'Argentine avec Messi, Agüero, Di Maria, j'en passe et des meilleurs, et une équipe du Brésil qui a peut-être 3 des 4 meilleurs joueurs du monde à chaque poste, n'arrive pas à performer en équipe, c'est vrai que c'est un peu déroutant.
Maxime Brossard.
Oui, déjà, je pense que pour répondre, on va dire un peu à Timothée, je pense que après c'est un peu comme dans les clubs finalement. C'est pas parce qu'on couche les noms de stars qu'on a forcément un collectif qui est performant. Après, je voulais
ça aide quand même.
Ça aide, mais pas forcément. Regardez, il y a des équipes, honnêtement. Mais si vous faites pareil, si vous prenez l'équipe de France, oui, il y avait des stars, mais pas que. Regardez, quand il y a eu le choix entre Giroud et Benzema, c'est sûr que si vous prenez intrinsèquement, bon, normalement Benzema est quand même un joueur supérieur à Giroud, mais dans un système de jeu, Giroud
une star, il faut des bons joueurs pour lui
par
faire
exemple,
des passes, quoi.
Jamais Pavard, personne n'avait vu venir.
Exactement,
c'est un collectif. Je crois que même Didier Deschamps lui-même ne l'avait pas vu.
Il
a cherché
pas,
un remplaçant. Il a cherché un remplaçant.
Il a tiré au sort.
Exactement.
Non, et après, oui, rapidement, c'est le fait par rapport au Brésil. Je pense que là, il y a quand même un problème générationnel, comme je le répète à chaque fois. C'est que je pense que cette génération, depuis la Coupe du Monde 2014, ils ont pris un coup derrière la tête. Et il va falloir rapidement changer d'époque, je pense, changer d'équipe et repartir sur de nouvelles bases, parce que c'est
plus
possible.
Que le Brésil, c'est le PSG.
c'est quasiment la même chose.
Ils ont pris un coup derrière la tête, ils n'arrivent pas à en sortir. J'ai l'impression que c'est la même chose.
Vous qui êtes sportif de très haut niveau, là, le mental, il joue, là.
Ah, carrément.
Que ce soit pour le Paris Saint-Germain, vous venez d'en parler, ou pour la CLSAO, le Brésil. C'est vrai que le 7-1 en demi-finale en 2014, il est terrible.
Il est terrible. Depuis ce jour-là, je pense qu'ils n'arrivent pas à s'en remettre. Et comme la remontada du PSG depuis depuis ce jour-là, j'ai l'impression que tant qu'il y aura les joueurs de cette époque, ils pourront pas y arriver.
Le sportif de niveau, il fait comment pour se remettre? Il se remet pas? Parce que là, c'est ce que voilà, c'est, ils ont du mal.
Après, dans le foot, je pense que
ça va tellement
vite, c'est un peu différent. Et puis les retombées sont pas les mêmes aussi. Donc au foot, c'est largement pire. Mais je pense que il faudrait, s'il y a un travail à faire sur eux pour que justement ils arrivent à passer au-dessus, quoi. Mais sinon, tant qu'ils sont dans le même club. Au même endroit, je pense qu'il y aura toujours des séquelles, quoi.
Timothée Rouvière.
Moi, je pense que c'est exactement la même chose pour l'Argentine. L'Argentine, depuis leur finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne, perdue 1-0 en 2014.
Plus que ça, ils perdent 4 des 5 dernières finales de Copa América.
Pour moi, c'est aussi un problème.
Là, dans le crâne,
c'est aussi un problème mental. Et il y a des joueurs d'une grande qualité. Bon, après, en défense et au milieu, c'est un peu compliqué. Mais en attaque, il y a des joueurs d'une grande qualité. Et je pense qu'il y a une omniprésence d'un Lionel Messi. C'est très compliqué d'exister derrière lui. Il fait un petit peu le deuxième sélectionneur. Donc, comme pour le Brésil, l'Argentine, c'est aussi compliqué. Et cette Copa América, eh ben, permet de voir des équipes fleurir. Et comme le Chili qui s'appuie sur Arturo Vidal et Alexis Sanchez.
Qui ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2018. C'était quand même un mini tremblement de terre pour le double champion d'Amérique en titre.
Oui, c'est vrai. Mais après, il gagne quand même les deux dernières Copa América. Donc il s'appuie sur des joueurs très performants et un collectif bien huilé et surtout des valeurs de jeu de combattants, tout simplement.
Maxime Brossard.
Je voulais revenir aussi sur les problèmes que rencontrent le Brésil et l'Argentine, par exemple. Je pense qu'il y a aussi clairement un problème de formation. Je fais une analogie un peu avec le rugby et notamment l'époque où les All Blacks n'arrivaient plus à gagner. Ils ont tout remis à plat et ils ont essayé. Ils sont revenus aux bases et ils ont surtout essayé de garder leur talent en fait. Ils ont essayé de fédérer derrière leur équipe, derrière leur pays. Quand on voit la somme de joueurs qui partent en Europe à 18-19 ans, c'est très tôt. Et je pense que les pays comme le Brésil ou l'Argentine, ils sont un peu dépouillés justement et ils n'arrivent pas à vraiment créer une identité de jeu comme on pouvait l'avoir avant avec tous les Brésiliens mais qui avaient grandi dans les championnats brésiliens ou dans les championnats argentins. Mais d'ailleurs, le problème, il est aussi que le meilleur joueur argentin n'a pas été formé en Argentine. Il était formé à Barcelone. Donc.
Pour terminer sur la Copa América, on parlera un petit peu de la CAN. Pour revenir sur l'Argentine, ses défaites en finale de la Copa América en 2004 au tir au but, en 2007, en 2015 et en 2016 au tir au but aussi, et défaite en finale de la Coupe du Monde en 2014. C'est-à-dire que les 5 dernières finales Coupe du Monde, Copa América, c'est 5 défaites. Là, dans la tête, ça fait très mal.
Oui, bah c'est clairement un problème mental. Et de toute façon, les Argentins, même s'ils sont qualifiés et qu'ils joueront contre le Venezuela en quart de finale, faut pas qu'ils se leurrent quand même. Ils étaient à deux doigts de l'élimination précoce face au Qatar. Oui. Défaite contre la Colombie, lourde défaite. Bon, ils gagnent contre le Paraguay, mais encore, c'est la moindre des choses. Je sais pas, c'est un trou de génération, c'est un problème. Alors, moi, j'ai l'impression les entraîneurs en Argentine, ils changent tous les 4 matins. Donc c'est peut-être un peu de stabilité. Faut que ça change là en Argentine. Et moi, pour moi, ils peuvent carrément se faire éliminer de toute façon. Soit en quart de finale, de toute façon, ils prendraient peut-être le Brésil en demi-finale. Donc là, ça risque d'être compliqué pour aller au bout.
Un mot de la CAN qui a débuté vendredi avec la victoire de l'Égypte contre le Zimbabwe, 1-0. Déjà une petite surprise où l'Ouganda a battu le Congo 2-0 de Cédric Bakambu, l'ancien Sochalien. Comme ça, c'est placé. Oh, le niveau de la Copa América, de la CAN, pardon, le juge comment, Loris?
Moi, je l'ai jugé intéressant. Non, je me suis pas ennuyé devant les matchs parce que en fait je trouve que les matchs de Cannes, il y a vachement d'intensité, donc c'est des matchs franchement qui on s'ennuie pas devant, donc je prends toujours du plaisir à regarder sans pour autant supporter des pays, quoi.
On a parlé de la Copa América, on a parlé un petit peu de l'Euro, des pays européens. On a l'impression que dans le football africain, l'écart de niveau entre le plus fort et le plus faible, entre guillemets, il est largement supérieur à ce qui peut arriver entre un Argentine-Équateur sans leur manquer de respect ou un France, parce qu'on est champion du monde, France-Suisse. Enfin voilà, j'ai l'impression que l'écart est quand même beaucoup plus important en Afrique.
Je suis totalement d'accord, parce que pour donner un ordre d'idée, quand en Coupe du Monde on tombe contre un pays d'Amérique du Sud, n'importe lequel, on n'est pas bien, alors que contre un petit pays d'Afrique, on dit bon, ça va aller.
Ça va le faire. Ça se voit quand même. On a vu le Sénégal-Tanzanie, le Sénégal qui gagne 2-0, l'Algérie-Kenya 2-0. Il n'y a rien en face.
C'est sûr qu'il y a un monde entre les pays les plus forts d'Afrique et les plus faibles d'Afrique.
C'est
pour moi,
quoi,
c'est un problème de formation, un problème d'infrastructure. Mais je tiens quand même à attirer votre attention quand même sur Madagascar. Parce que Madagascar, ils font 2-2 contre la Guinée. Madagascar, qui est un tout petit pays. Alors, il y a Jérémy Morel, mais qui était suspendu quand même hier.
Et il y a deux anciens Sochaliens.
Et il y a deux anciens, on le place. Mais Madagascar, c'est quand même. C'est un petit pays, et quand même. C'est un pays qui a investi un petit peu dans. Alors, bon, ils récupèrent des joueurs à droite à gauche comme ils peuvent. On ne sait pas comment Jérémy Morel atterrit là. Mais voilà, c'est. Après, sur le niveau général de la CAN, oui, il y a des favoris. Il y a l'Égypte, il y a le Sénégal. Il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a le Côte d'Ivoire qui ont des gros moyens, qui ont des écoles de football, qui ont des joueurs un peu expatriés partout. Après, il y a d'autres pays, mais après, c'est vrai que l'Afrique est très 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 en retard par rapport à l'Europe, à l'Amérique du Sud. Et tant que ça ne sera pas réglé, c'est vrai qu'il y aura cet écart-là, ils ne pourront pas exister en Coupe du Monde.
Et beaucoup de, on le rappelle qu'aucune équipe africaine n'a fait plus loin que quart de finale de Coupe du Monde, ce qui est quand même terrible. On le rappelle que Corée du Sud a fait une demi-finale en
Le Sénégal,
qui avait éliminé la France, qui était dans le groupe de la France en 2002. On parle des gros pays, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, justement. Ces équipes, les joueurs sont beaucoup en Europe, il y en a en France. On peut parler du Sénégal qui est en lien avec le FC Metz directement. Sadio Mané qui est à Liverpool, passé par Metz. Il y a beaucoup de Sénégalais qui passent par le FC Metz sous un contrat de partenariat. Mmh. C'est ce qu'il faut pour le football africain ?
Oui, c'est vrai que c'est important parce que ça permet à des jeunes joueurs africains d'exister et de rentrer dans de bonnes conditions dans des pays, en plus d'exister et de jouer dans des clubs. Et pour rejoindre ce que disait Loris, c'est vrai que c'est plaisant cette CAN parce que en plus de l'intensité qu'il y a, on a quand même des joueurs qu'on connaît, des joueurs qui sont passés par le championnat de France, des stars internationales, parce que Sadio Mané, c'est quand même ce qui se fait de mieux peut-être en Europe. Et c'est vrai que les équipes construisent, les entraîneurs construisent leur équipe autour de ces joueurs, et les joueurs évoluent dans les meilleures conditions, et ça fait plaisir.
Et le capitaine du TFC, Max-Alain Gradel, qui a joué cet après-midi avec la Côte d'Ivoire et qui a offert le but, passe décisive pour Max-Alain Gradel. Donc voilà, Toulouse est même représenté pour la Coupe d'Afrique des Nations. Maxime Brossard.
Oui, et puis en plus, au niveau de la ferveur, j'ai l'impression que la CAN est en train de prendre le dessus sur ce qui se fait en Amérique du Sud, où avant on voyait des stades pleins, c'était la folie. Bon, ça s'explique aussi par le prix des places au Brésil qui apparemment est exorbitant et qui fait que la population ne peut pas aller supporter son équipe, ne peut pas se rendre au stade. Mais on sent qu'à la CAN, voilà, il y a un vrai engouement.
Les stades sont quand même vides à la CAN. Est-ce que les stades sont trop grands?
C'est ça le problème.
C'est le pire, c'est hallucinant.
C'était la même chose aux Jeux Olympiques, les stades étaient vides parce que justement pour la population le prix des places était pas possible.
On va en parler tout à l'heure des Jeux Olympiques de Rio 2016, vous avez participé tout comme Londres 2012 justement. Nous on va parler avec vous, on va venir parler de vous dans moins de 4 minutes, on se retrouve tout de suite sur Radio Présence. Just don't make me laugh, my life's a joke, your life's a gas. You broke my heart, the midnight mass, now I'm the ghost of Christmas past. The only choice you gave to me is one I took reluctantly, 'cause when we bled democracy you always take immunity. How long do we sink to the bottom of the sea? How long, how long, how long do we sink and it's only you and me? How long, how long, how long. Clean. You wear the same old dirty jeans. What's the point of being seen? Those eyes are cruel, those eyes are mean. What's the point of human beings? A sharpie face on tangerines. Why has it felt like Halloween since Christmas 2017? How long? Supposed to be this hard. The house is on Mulholland Drive. The car's on Sunset Boulevard. The registration's here with me. Neither of us has the key. We can live down in the flats. The hills will fall eventually. How long till we sink to the bottom of the sea? How long? How long? How long till we sink? And it's only you and me. How long, how long, how long? Non, c'est lui. C'était Vampire Weekend sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'invité.
Vampire en anglais.
Compliqué toujours ouais. L'anglais, on s'améliore
le,
pas.
Le titre c'est How Long.
Ouais, c'est,
ça,
ouais.
ça va là.
Pour vous c'est Ovlong.
Bon, promis pour l'année prochaine, je ferai des efforts d'anglais. Je vais essayer. Notre invité parle sûrement anglais parce qu'il a beaucoup voyagé. Notre invité a participé aux Jeux Olympiques de Londres, justement, en 2012 et Rio 2016, fort d'un titre de champion du monde et champion d'Europe, mais pas le championnat de France, rien que ça, on va en parler. Loris Bourelli, 27 ans, natif de Martinique et licencié au TOEIC de Toulouse, est un élément important de la natation française. Loris, rebonsoir.
Bonsoir.
Natation, est-ce que vous, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit?
On peut le dire, oui, parce que je viens de Martinique, donc c'est une île et forcément j'étais au contact de la mer, etc. Voilà. Donc c'est venu assez naturellement. Bon, petit, on pratique forcément un peu de sports différents, mais moi je suis arrivé à la natation complètement par hasard, mais puis j'y suis resté. Quoi.
Vous avez fait quoi comme du foot, du rugby,
tennis,
du,
voilà. Foot, j'ai fait du judo, donc voilà, j'ai un peu touché à tout et puis j'ai pris. Pas ce que je préférais, mais ce où j'étais le plus fort.
Juste, c'est important, ça, de choisir, de choisir là où on est le plus fort.
Non, pas du tout, non.
C'est, moi, c'est du hasard.
C'est un conseil que je donnerais vraiment pas. C'est toujours de choisir ce qu'on préfère, où on est le plus à l'aise, parce que après.
Parce que c'est une carrière, voilà, ça peut durer 10 ans.
Ça peut durer très, très longtemps.
Et c'est longtemps. Timothée Rouvière.
Je pensais à la Martinique. C'est vrai qu'il y a une championne qui s'appelle Malia Metella. Est-ce qu'il y a une empreinte? Est-ce qu'on parle beaucoup d'elle? Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a des infrastructures qui ont été renommées à son nom?
Vôtre
Moi pas encore, mais
ça viendra.
En Martinique, il y a Coralie Balmy et aussi. Malia, elle est guyanaise. Donc Malia, elle a une piscine à son nom en Guyane et Coralie Balmy, elle a une piscine à son nom en Martinique. Ouais.
D'accord.
C'est ça.
Okay.
Vous êtes issu d'une famille de sportifs ou c'est totalement
alors,
par hasard
pas du tout.
Le sport
vraiment pas. Mes parents, ils regardaient beaucoup le sport à la télé, mais je suis vraiment le premier sportif de la famille. Donc,
Et de très haut niveau, justement, champion du monde, champion d'Europe. On imagine que ça demande bien évidemment une charge de travail absolument inimaginable pour être à ce niveau-là.
Ah oui, carrément. Enfin, inimaginable, non, mais...
Terrible.
Ouais, voilà.
C'est terrible. C'est...
On s'en rend pas compte parce que quand on voit les compétitions, on voit que les personnes faire une course et gagner. Donc, on se rend pas forcément compte de l'investissement qu'il y a.
C'est facile, voilà. Il suffit de faire une course, je vais dans l'eau,
exactement.
Et c'est réglé. Quoi.
Moi, je suis parti de la Martinique à l'âge de 15 ans. Donc, il y avait toute ma famille en Martinique. Je suis arrivé à Toulouse au Dauphin du Touec à 15 ans. Et du coup, ben, j'ai grandi tout seul et pratiqué. Ben, enfin, j'ai grandi avec les Dauphins du Touec, mais je suis arrivé relativement jeune. Donc, c'est pas quelque chose de facile à faire.
Justement, bon, souvent en métropole, on quitte Toulouse pour aller à Saint-Etienne, Toulouse pour aller à Paris. Que ce soit dans le foot, dans le rugby, ça va. Là, pour un adolescent, pour un enfant finalement de 15 ans, ça n'a pas été trop difficile ou c'était vraiment fixé, c'est je vais être nageur professionnel, donc il faut des sacrifices, c'est souvent ça, donc j'y vais.
Mes parents m'ont un peu forcé parce que moi je voulais pas forcément, parce que j'étais très bien avec mes copains et toute ma famille, je savais pas où j'allais, je connaissais pas Toulouse, donc... J'y suis allé en faisant confiance à mes parents et puis j'ai eu de la chance de tomber dans un club qui m'a plu et puis donc de performer. Du coup, j'ai vécu des très belles histoires à Toulouse.
Est-ce qu'on vous accompagne justement psychologiquement à cette séparation?
Non, pas du tout. Alors,
du tout
vraiment pas.
C'est lancé
pas
dans le grand bain, sans.
Voilà,
sans
c'est ça. Alors, j'étais lancé dans le grand bain. Après, j'ai eu la chance de bien m'en sortir. C'est-à-dire que j'étais au Crêpes de Toulouse, donc j'étais accompagné, etc. Donc, on n'est pas laissé dans la
voilà,
nature.
Voilà, il y a un suivi pour un enfant de 15 ans.
Etc. Oui. Voilà, oui. C'est
heureusement,
très cadré. Oui, voilà, heureusement. C'est très cadré. Et donc, non, on m'a accompagné justement pour faire mes études et performer au niveau.
Juridiquement, je crois que c'est 15 ans, c'est le minimum pour pouvoir bouger de sa famille, c'est
exactement,
ça
ouais, c'est ça. Avant, il y a peut-être des moyens, mais je ne les connais pas, mais c'est très difficile. Ouais.
Oui, je crois qu'il faut au moins des deux parents
qui
déménagent
suivent,
avec.
Voilà, un truc comme ça. Ouais.
C'est assez compliqué. Justement, pour être champion du monde, champion d'Europe de la discipline, on va parler des différentes disciplines tout à l'heure. Ça demande combien de temps par jour dans l'eau?
Alors, dans l'eau, concrètement, un temps d'entraînement par jour, je dirais par jour, on est sur 6 heures.
6 heures.
6 heures par jour, oui.
Sur
costaud, hein.
J'ai mal au ventre.
C'est hallucinant, 6 heures. Moi, déjà, au bout d'une demi-heure, j'ai les droits qui fripent.
On a fait un ping-pong de un quart d'heure, j'étais mort déjà.
Avec le temps, ça fait plus sur les doigts. Mais ouais, en termes de temps, on arrive le matin. Donc à ce moment-là, j'arrivais à 8 heures. Je repartais, il était 11h30 quand on nageait beaucoup midi. Et je revenais à 16h30. Et ouais, on finissait à 19h30, 20h des fois. Donc ça dépendait. En fait, il y a plusieurs périodes. Des périodes où on va plus nager. Cette période, on va moins nager, donc forcément les temps varient, mais les plus grosses périodes, je dirais, ouais, 6 heures par jour.
Et on nage plus quand la compétition arrive ou justement non, on s'économise
On repose l'organisme, donc on va nager moins.
C'est juste de la voilà. Nage.
Enfin,
de...
sur les championnats de France, donc quand on a des qualifs à aller chercher, etc., ou même avant les championnats du monde, donc forcément on prépare l'organisme, donc on ralentit pour préparer l'organisme à être le plus performant.
6 heures par jour dans l'eau ou en salle de muscu, voilà. J'imagine que vous êtes professionnel pour pouvoir vivre de ça. Justement, à partir de quand on est professionnel, si on l'est déjà, et comment on fait pour vivre à côté?
Alors, je ne sais pas si on... Bah, en natation, on n'est pas considéré comme professionnel. Donc, quand bien même on a fait des championnats du monde, etc., on doit... Moi, j'ai fait mes études, j'étais à la Toulouse Business School en même temps. Mes parents m'aidaient financièrement. Donc, après, on a la chance des fois d'avoir des sponsors. Donc, forcément, il faut ramener des titres pour avoir des sponsors parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, moi, je passe par le... je bosse beaucoup avec le club, ouais, mais sinon, on a des partenaires comme Pelleras, donc la mairie de Toulouse aussi qui nous accompagne un peu. Je pense notamment à Chausson qui est une entreprise qui aide énormément le club. Donc j'ai des sponsors, mais le club a des sponsors, mais moi personnellement j'en ai pas et je suis à la recherche justement de sponsors pour m'aider au quotidien, quoi.
Le message est passé, si jamais vous voulez aider Loris Bourelli, champion du monde, champion d'Europe, on le rappelle, vous pouvez contacter Radio Présence ou Loris directement pour trouver un partenaire. Vous avez côtoyé bien évidemment champion du monde, champion d'Europe, vous avez côtoyé des nageurs, des grands nageurs. Je pense tout de suite à Manoudou qui reprend doucement la natation à Paris en
doucement,
secret.
Mais sûrement, doucement.
Voilà. Doucement pour Manoudou.
Voilà.
On entend souvent que les nageurs, ils ont un coup de pompe dans la tête, ça suit plus. C'est difficile vraiment d'être dans l'eau, c'est vraiment répétitif. Le football, le rugby, le handball, bon, ça peut, c'est le même style, mais ça peut varier. C'est vrai que la natation, c'est des tout droits tout le temps. Ça fatigue le cerveau.
C'est pas un sport collectif. Donc, on se retrouve vite fait dans une ligne, avec une ligne d'eau au fond du bassin, on parle pas. Donc, forcément, c'est un sport lourd et qui demande beaucoup d'engagement, un engagement total même, je dirais, parce que maintenant, en fait, la natation est arrivée à un tel niveau que t'as plus le droit, c'est le même niveau que le football, enfin, en termes d'investissement, je veux dire. Donc maintenant, il n'y a plus la place pour l'à peu près, donc ça demande un investissement total, et forcément, quand on s'investit totalement dedans, c'est un sport qui est lourd, ouais.
Paradoxalement, comme vous venez de le dire, c'est un sport individuel, non collectif, pourtant vous êtes champion du monde et champion d'Europe. Par équipe, entre guillemets, sur le relais, vous pouvez nous expliquer un petit peu ça consiste en quoi?
Alors, il y a des relais lors des championnats du monde, c'est-à-dire qu'on est 4 nageurs, donc sur des 4 fois 100 nages libres ou 4 fois 200 nages libres, il y a un autre relais qui s'appelle le 4 fois 104 nages. Donc, il y a des épreuves collectives, mais toujours est-il que quand on plonge, on est tout seul, mais on passe le relais à quelqu'un pour finir la course.
Vous êtes spécialiste sur le 4 fois 100, le 4 fois 200, ouais, sur le 50 mètres, le 100 mètres, où c'est...
Alors, mes spécialités, c'est 100 crawl et 200 crawl, donc c'est mes deux spécialités. J'ai de la chance qu'il y ait des relais sur ces épreuves-là. Donc voilà.
Timothée Rouillet.
C'est vrai que le crawl, il y en a beaucoup de nageurs qui le font. Ça a été un choix par défaut ou vous étiez plus à l'aise tout simplement sur cette nage?
Non, c'est venu naturellement. J'ai toujours été plus à l'aise en crawl. Donc, arrivé à un niveau, on privilégie une nage. Parce qu'on peut pas tout faire, quoi. Donc j'ai privilégié cette nage et j'ai bien fait de la privilégier.
Maxime Rossard. Il faudra que vous m'appreniez à respirer en crawl, quoi, parce que en fait moi le crawl se transforme en épreuve d'apnée. C'est-à-dire qu'en fait j'ai la tête sous l'eau et généralement je sors de la ligne et enfin je fais n'importe quoi et je finis complètement étouffé, quoi. C'est vraiment incroyable la façon dont vous arrivez à rester rectiligne. C'est...
On y peut, comme je l'ai dit, on y passe du temps, mais au final c'est assez naturel, mais c'est relativement facile. En plus la respiration, c'est quand même l'élément qui te permet justement de performer le mieux possible, donc faut le travailler.
Techniquement parlant, en 10 secondes, c'est vrai que c'est mieux d'être au centre de la piscine, entre guillemets, pour éviter de prendre les vagues des adversaires. On le ressent, quand on est sur le bassin.
Ah oui, dans l'eau, on le ressent totalement. Oui. Surtout quand tu es avec des personnes qui nagent plus vite que toi, donc tu as le bassin qui bouge avec des remous, etc. Donc forcément, pour tes appuis, c'est moins évident. Mais aussi, après, il y a des techniques, c'est-à-dire s'il y en a un qui est un peu devant, te coller à sa ligne pour avoir une vague, une inertie qui te permettra d'aller plus vite.
Un mot de la natation française en général. C'est vrai que les Jeux Olympiques de Rio, vous y avez été. C'est vrai que c'était un petit peu catastrophique pour la natation française. C'était une énorme déception par rapport à Londres et par rapport à Pékin, par rapport à Athènes. Il y a un renouveau là justement pour Tokyo de 2020, j'imagine.
Oui, voilà.
Les minima bientôt.
Donc il faudra faire les minima en avril prochain. Et forcément, oui, la natation, elle est très jeune maintenant. C'est-à-dire qu'on a connu l'âge d'or.
Il y a un creux de génération. Là.
Voilà, on a connu l'âge d'or de la natation avec juste avant Laure Manaudou, puis après son frère Florent, puis Yannick Agnel, Camille Muffat, Alain Bernard, etc. Donc forcément, il y a eu un moment où eux, ils ont arrêté, il fallait passer le relais. Et peut-être qu'on n'était pas forcément prêt à ce moment-là et que pour passer le palier, il faut un peu de temps, quoi.
Il y a des minima à faire, hein, c'est ça, selon les distances.
Voilà, c'est ça. Pour chaque distance, il y a un minima à faire qui représente le temps du 12e mondial à peu près.
Un mot sur le sportif de haut niveau et sur les réseaux sociaux en une minute. Vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un sportif de haut niveau, c'est une obligation aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux pour sa cote de popularité, bien évidemment, mais justement, vous êtes en recherche de partenaires. Voilà. C'est une obligation, c'est important.
Oui, c'est une obligation. Enfin, on est à l'ère du numérique, là, donc forcément...
C'est une nécessité.
Voilà, quand on recherche des partenaires, ben forcément, eux, ils ont besoin d'une visibilité et nous aussi, on a besoin de cette visibilité-là. Donc forcément, c'est un travail d'équipe et... Il faut en profiter des réseaux sociaux. Oui.
Suivez Loris Bourelli sur Twitter, comme ça. Ça va l'aider pour trouver un partenaire. Il y a les championnats du monde du 12 au 28 juillet en Corée du Sud. Malheureusement, vous ne serez pas, vous ferez pas partie de cette compétition. Mais le point positif, comme vous l'avez dit, ça vous laisse un été quand même relativement tranquille, entre guillemets. Le prochain objectif, on vient d'en parler, j'imagine que c'est les minima pour disputer une troisième Olympiade de suite.
Oui,
et
voilà.
Surtout, pourquoi pas prendre enfin un titre de champion de France.
La médaille qui me manque, c'est... Bon, j'ai des médailles des Jeux de France, c'est une médaille des Jeux Olympiques, c'est la seule que j'ai pas, et c'est pour ça que je vais aller chercher ces troisièmes Jeux Olympiques pour ramener enfin cette médaille, quoi.
Merci beaucoup, Loris Bourelli. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Présence. C'est passé quand même assez vite. On va pas mentir à nos auditeurs. On a bien évidemment des feuilles de questions, mais on voit le temps qui défile et il reste au moins la moitié de questions.
On va discuter en antenne.
Il reviendra.
On va discuter en antenne et on va aller à la piscine puisqu'il va m'apprendre à nager. C'est vrai, c'est vrai que je sais. J'avoue.
La brasse coulée.
Coulée, il sait faire, c'est bon.
Merci beaucoup. Loris, merde, comme c'est je le plaisir. Dis pour la suite. Merci messieurs, merci à Grégoire à la réalisation, messieurs, dames, pardon. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Onaille et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Bonne semaine avec Radio Présence.
Un euro, c'est le prix d'un journal quotidien. À combien estimez-vous le prix d'une présence à vos côtés 24 heures sur 24 ? Donnez